La dernière fois, je vous avais parlé de notre vocation à la vie éternelle, notre vocation à voir Dieu, notre vocation à ne pas pécher. Nous sommes nés dans la grâce d'un amour qui nous précède. Dieu, parce que nous sommes en ce monde, nous a donné la vie. Même si on a eu très peu de temps sur terre, toute vie est un don de Dieu. Tout enfant à naître est un don de Dieu. Et toute vie est une bénédiction. Aucun être humain n'est le fruit d'un hasard et a un rôle à jouer dans ce monde. Aujourd'hui, je voudrais donc évoquer un peu comment il nous faut organiser notre vie. Parce que nous avons reçu par notre naissance donc un appel à la sainteté, à vivre le bien que Dieu nous veut et à porter des fruits, la parabole des talents spécialement. Et la parabole des talents, pour nous, c'est d'être à l'image de Dieu. Nous sommes créés pour être à l'image de Dieu. Et pour y parvenir, nous possédons des facultés spirituelles, de véritables puissances qui sont le propre de notre âme, l'âme que Dieu a déposée en l'homme dès la création, faire un bon usage des puissances de l'âme. Il y a trois puissances de l'âme. La puissance désirante, la puissance irascible, et la puissance raisonnable. Ces trois puissances de l'âme humaine qui donnent à l'homme de pouvoir devenir Dieu, il faut les conserver dans leur objectif et leur objet. Les puissances de l'âme doivent être des moteurs d'élévation, des moteurs d'accomplissement, d'épanouissement. Et quand elles ne sont plus dans cette fonction, ces puissances de l'âme deviennent puissances d'ensevelissement, de laideur, de souffrance, de division. C'est le monde des passions. Il faut faire attention, frères et sœurs, car chez beaucoup d'entre nous, il y a une sorte de tolérance à ces déviations, à ces déroutements des puissances de l'âme. Par exemple, nous disons, c'est un péché mignon, un petit verre, ça réchauffe. On les tolère, ces détournements, on est aveugle. Et même parfois, ils sont présents en nous-mêmes. Ils ne sont pas encore éveillés, ces puissances déviantes de l'âme. Puis d'un seul coup, elles se réveilleront parce que la situation a changé. Par exemple, certains étaient d'honnêtes citoyens, des éleveurs de poulets, des fonctionnaires des postes. Puis la situation change, la guerre arrive, et cet éleveur de poulets deviendra Himmler, l'autre deviendra un collaborateur de la Gestapo en déportant des gens. Parce que lui mettre son orgueil en Dieu, il avait un orgueil en lui, mais il ne pouvait pas se déployer, mais par la collaboration, il s'est révélé. Donc elles peuvent être en état de sommeil, dans l'inaction. On vit dans une illusion de paix et un bon jour, on devient des monstres. Donc chacun de nous peut faire de sa vie un chemin de sainteté. Mais il faut descendre en nous-mêmes. Il faut scruter son âme pour la conduire et la conduire vers Dieu, Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Et il faut faire ça jusqu'à la fin de sa vie. Être saint, ce n'est pas en soi un héroïsme, mais c'est plutôt se rapprocher de Dieu pour bénéficier de lui. Lui qui est bon, lui qui est vrai, lui qui est beau, lui qui est un. Bénéficier de la triple influence de Dieu dans sa bonté, dans sa vérité, sa beauté, son unité, c'est cela la vie spirituelle. Participer aux perfections de Dieu. Cultiver cette relation, c'est ce qu'on appelle être en communion. Réduire la distance qu'il y a entre la créature et le Créateur. Se construire à la ressemblance de Dieu. Aiguiser en nous, de vouloir exister à l'image et devenir image-ressemblance avec Dieu. Et cela, frères et sœurs, nous pouvons y parvenir par nos facultés, celles de notre âme et de notre intelligence. Nous pouvons, si nous le voulons, cultiver en nous ce désir. Nous avons été tournés vers Dieu dès l'origine de notre création. Nous possédons dans notre nature le désir du ciel, le désir de Dieu, le désir de voir Dieu. Les enfants, quand on leur parle du bon Dieu, je veux le voir. Alors les puissances de l'âme, ces facultés données à l'homme dès l'origine par le Créateur pour lui permettre d'atteindre sa fin, de vivre en sa présence. Elles peuvent être orientées comme il se doit, précisément, par la pratique des vertus. Par les vertus, par la grâce des sacrements, par le respect des commandements, l'homme peut parfaire cette ressemblance avec Dieu. Ainsi, il s'agit donc de nous réinvestir dans tout notre potentiel en utilisant librement nos facultés pour que toute notre vie dépende de Jésus. Suis-moi, viens à moi, mon joug est facile à porter. Bien sûr, nous sommes des créatures fragiles et vulnérables, mais nous avons la capacité de participer activement au dessein de Dieu, de coopérer à la grâce. Détourne-toi du mal et fais le bien. C'est ça la joie du carême. Maxime le Confesseur disait: combat tes ennemis, les passions, et lutte pour acquérir les vertus. Les Écritures, les Évangiles en particulier, nous mettent dans une rencontre possible avec le Seigneur pour avoir une communion non pas intellectuelle avec le bon Dieu, mais à entrer dans une compréhension spirituelle. Et l'Écriture deviendra un arbre de vie. Pas simplement lire les textes de l'Écriture, mais en tirer une joie pour choisir et pour vivre. L'Écriture peut devenir un paradis pour notre discernement. Chacun a un champ à cultiver. Il doit en retirer l'ivraie pour faire grandir la bonne semence, faire pousser la bonne herbe, les vertus, pour surmonter les mauvais coups de la vie. Donc, la sainteté, cette vigilance de l'âme dans le déploiement de son énergie désirante, irascible et raisonnable, bien sachez tout simplement que la patience et un peu de charité viendra à bout de toutes les difficultés. Certes, les vertus sont des contrepoisons à notre misère, mais elles sont aussi des puissances de guérison, parce que nous acquérerons des habitudes qui nous mettront dans une douceur où, finalement, rien ne sera difficile, car nous aurons pris le bon chemin. Par exemple, écoutez bien ce que dit saint François à ce sujet. Où est charité et sagesse? Ça, c'est les puissances de l'âme. À cet endroit, ni crainte, ni ignorance. Là où est patience et humilité, là, il n'y a ni colère, ni trouble. Là où il y a pauvreté et allégresse, là, il n'y a pas de cupidité ni d'avarice. Là où est la quiétude et la méditation, il n'y a plus de soucis, ni d'errance ou de perdition. Là où est la crainte du Seigneur pour garder son foyer, là le démon ne peut trouver place pour entrer. Là où est la miséricorde et le discernement, il n'y a pas la récrimination, ni l'endurcissement. Je dirais, il n'y a pas de gilet jaune. L'attitude intérieure que décrivent ces conseils de saint François dénonce en fait les fausses apparences. Les vertus, celles qu'on a citées, pauvreté et allégresse, délogent les vices, la cupidité et l'avarice. Les vertus de quiétude et de méditation délogent les soucis et l'errance. Les vertus chassent donc ses passions. Aimer Dieu comme source unique de tout bien, et nous partageons la joie parfaite. La clé du bonheur ne peut être qu'en avant-goût du paradis, où tout est grâce, sainte Thérèse d'Avila. Donc quiétude, calme et tendresse, méditation, doux silence, tant d'intimes rencontres avec Dieu où l'homme le rejoint, miséricorde en vertu de Dieu par excellence, sublime écoute, rencontre du cœur de celui qui souffre et du miséreux, discernement, élargissement du regard et choix, douce crainte, lieu de liberté et d'obéissance. Voilà ce que dit saint François. Par conséquent, les ivresses de ce monde peuvent nous rendre aveugles et malades. Il y a une bonne santé, il y a une guérison qui nous est proposée précisément sans être une attitude rigoriste, à savoir de raideur parce que on veut y arriver, qu'on n'y arrive pas. Il y a simplement à contrôler et à maîtriser ces passions qui viennent détourner les puissances de l'âme. Si nous vivons avec les puissances de l'âme, nous vivons avec Dieu. Parce qu'elles sont bien orientées, Elles vont donc, ces puissances de l'âme, nous permettre d'écouter, d'aimer en gardant. En gardant quoi? La charité. Et de mettre en pratique les commandements. Alors, dans ce deuxième point que je vais aborder, qui nous préparera ensuite aux puissances, se vivre avec le Christ est fondamental. Écouter, aimer et mettre en pratique les commandements, c'est-à-dire garder l'alliance. Or, je vous fais remarquer que dans l'Évangile le dimanche dernier, le démon vient tenter Jésus. Les trois tentations sont précisément pour rompre l'union avec Dieu, l'alliance avec Dieu. Première tentation, le démon veut rompre la première alliance, celle d'Abraham. La deuxième tentation, il veut rompre l'alliance avec Moïse. Et Jésus lui répondra, « Ne sais-tu pas qu'il est écrit ?» Et dans la troisième tentation, c'est l'alliance avec le temple, l'idolâtrie. Donc, écouter, aimer, mettre en pratique les commandements, garder l'alliance. Garder l'alliance, c'est être prophète, prêtre et roi, être saint. Écoutez, en hébreu, ça se dit « Shema »,« Shema Israël ». Ça signifie « obéir et répondre ». Alors l'écoute, c'est quoi? C'est une preuve d'amour. Écouter, c'est aimer. Or, les passions déforment l'écoute. On n'entend pas ce qui est dit, on est dans son propre sujet. On est replié sur soi, on n'est pas attentif, on déforme même les paroles de l'autre parce qu'on n'a pas écouté. Ou bien on est dans une écoute purement intellectuelle, ou bien on est enfermé dans sa vision personnelle des choses, on a sa propre idée sur le sujet dont on nous parle, l'intelligence n'émerge pas. Changer le cœur de pierre en cœur de chair, un cœur qui écoute. C'est vrai que nos passions déforment les paroles des autres, on n'entend pas les choses comme elles sont, mais comme cela nous arrange. On peut même faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. On peut même lui faire dire ce qui nous convient. Surtout quand notre écoute est intellectuelle. Et puis, il y a un deuxième point dans cette question de ne pas écouter. Quand on n'écoute pas, on renonce à reconnaître que l'autre est notre frère. Et qu'il a peut-être besoin qu'on le soutienne. Déformer la parole de Dieu, c'est refuser de nous laisser guider de l'intérieur par l'esprit de la parole. C'est la repousser, c'est nous priver de son soutien. Comme Jésus dit, qui est mon frère, qui est ma sœur, celui qui écoute la parole. On se prive d'une amitié profonde. « Veux-tu être mon ami ?» dit Jésus. Retenez bien cette question de Jésus. « Veux-tu être mon ami ?» Il n'avait personne au pied de la croix. Il avait Marie, il avait Jean. La sainteté, c'est cela aussi. L'héroïsme des vertus pour vivre une amitié et non pas être présentable pour sa propre fierté devant Dieu. Mettre en pratique alors, précisément, il va falloir être humble. Comme je vous le dis, les vertus ne nous sont pas données pour nous élever aux yeux des hommes et pour leur montrer à Dieu qu'on prie. On a le publicain et le pharisien. Le pharisien était vertueux et il le montrait. Les vertus sont là pour nous accompagner dans nos pauvretés, dans nos chutes, pour nous tenir la main afin de nous relever plus vite et de repartir. Les vertus excitent notre liberté, nous permettent d'être petit à petit débarrassés de ce qui fait obstacle à notre relation avec le bon Dieu. Elles nous apprennent à laisser agir l'Esprit Saint. Il faut que je diminue. Combattre pour acquérir une vertu, c'est savoir qu'on n'y arrive pas. Mais qu'on s'accroche. Il faut que je grandisse, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Ainsi on accède au royaume des cieux en devenant pauvre, en mourant aux soucis de la vie de chaque jour, à nos égoïsmes en particulier. On ne perd pas sa dignité, mais on demande simplement à Dieu de nous aider sans se comparer aux autres, ni se mesurer aux autres. Qui arrive mieux que moi, qui est plus saint à la messe, qui écoute beaucoup mieux, peu importe. En cultivant les vertus, nous ne faisons pas de l'héroïsme, mais petit à petit, nous émigrons vers le bon Dieu. Nous nous musclons dans la facilité de dire un jour à Dieu, « Je t'aime ». En le lui prouvant dans un goutte à goutte de tous les jours. Dessaisissement de soi et de son orgueil, voilà ce que permettront les vertus. Oui, Seigneur, donne à ceux qui te prient l'abondance de ta grâce. Et les vertus en font partie. Avec ton aide, puisse-je suivre tes commandements pour y trouver dès maintenant le bonheur pour en recevoir dans l'éternité ta joie. Vous aurez des victoires, vous acquérerez, vous avez déjà des vertus, développez aussi celles que vous n'avez pas. Alors les puissances de l'âme proprement dites maintenant. Ces énergies divines qui peuvent devenir, par négligence, des puissances d'ensevelissement, et non des puissances d'élévation, à cause de l'avidité des plaisirs au niveau du corps, par l'amour égoïste de soi au niveau de l'âme, et par l'orgueil au niveau de l'intelligence, ces trois puissances de l'âme, détournées, deviennent des instruments entre les mains du démon. Et avec cela, il peut nous entraîner dans ce qu'on appelle le désespoir, la perte de la foi, et de devenir nous-mêmes des meurtriers. Ces trois puissances de l'âme détournées, liées aux passions du corps, c'est la puissance désirante, liée, alors la puissance désirante, puissance du désir ou puissance liée au plaisir de l'amour des choses et des personnes. La puissance irascible, elle a pour cible le monde de l'énergie et de la colère, de l'ardeur, du tempérament. La puissance de la raison ou puissance raisonnable a pour cible la compréhension des choses, l'intellect. Elle est pervertie par la vaine gloire, l'orgueil. Elle empêche l'émergence de l'intelligence vraie, l'intelligence du cœur. Donc je résume, trois puissances de l'âme qui peuvent être détournées. La puissance désirante qui a pour cible le monde des plaisirs et de l'amour. La puissance de l'ardeur ou puissance irascible qui a pour cible le monde de l'énergie et de la colère, mon tempérament. Et la puissance raisonnable qui a pour cible l'intellect, la compréhension des choses, le pourquoi, 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 et qui peut être perverti par la vaine gloire. On croit comprendre, l'orgueil, on est meilleur que les autres, et qui empêche l'intelligence du cœur. Et ces puissances déviantes infiltrent dans l'homme trois grandes tentations. La première, c'est d'arriver à être possédé par l'esprit de jouissance, issu de la puissance du désir. L'esprit de possession, on veut plein de choses qui viennent de la puissance de l'ardeur, et l'esprit de puissance, issu de la puissance de la raison. Et les tentations du Christ qu'on a eu dimanche dernier reprend ces trois points admirablement. Je vais commencer par vous parler essentiellement aujourd'hui de la puissance désirante. Donc je vous dis, puissance désirante, toutes et tous, nous en avons une, c'est celle de notre âme. Seigneur, mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Voici la vraie puissance désirante. Un être vous manque et tout est dépeuplé. Mon Dieu, que ne t'ai-je connu plus tôt ? Vers toi languit mon âme, terre aride, altérée, sans eau. À qui irions-nous, Seigneur, toutes les paroles de la vie éternelle ? Relisez donc les psaumes et voyez bien tous ces versets où s'exprime la puissance désirante du psalmiste. Quand ramèneras-tu, Seigneur, tes captifs ? Là où coule le lait et le miel. Alors, quand elle est détournée, cette puissance de l'âme se caractérise par quoi ? L'avidité des plaisirs et la tentation de jouissance. Alors là, on va s'amuser. On va tous s'y reconnaître. On dit que la puissance désirante mal orientée est la mère de toutes les convoitises. Il est vrai qu'il est nécessaire d'améliorer sa situation matérielle. Mais attention, avec quel état d'esprit ? La société de consommation, elle vous propose le portable 12, après le 13, le 20, le 18. Ça ne s'arrête jamais. Toujours plus moderne. Alors les trois puissances, la puissance désirante prédispose à trois choses. La gourmandise, la luxure, l'avarice et la cupidité. Vous ne voudriez pas imaginer que l'avarice et la cupidité en faisaient partie. Alors la gourmandise, qu'on a tendance à limiter à la nourriture corporelle. La luxure, qui est une recherche sans retenue des plaisirs charnels. L'avarice, l'amour de l'argent, et la cupidité, la lutte pour acquérir et conserver de nouveaux biens. Dans la vie spirituelle, personne ne peut progresser s'il ne domine pas en elle ou en lui cet ennemi qui se camoufle souvent sous des appétits gourmands, les appétits gourmands. Et comme c'est le carême, je ne voulais pas ne pas vous en parler. Au lieu de chercher des victoires lointaines, du très grand jeûne, de courageuses neuvaines, des nuits d'adoration. Je vous invite à combattre l'ennemi qui se camoufle souvent chez vous et chez nous et chez moi sous la forme d'appétits gourmands. Alors ces appétits gourmands, le Christ notre Dieu est le but de tout désir. C'est pour retrouver cette joie de l'origine. Car si on est pris par ses appétits de jouissance charnelle, nous perdrons la jouissance spirituelle de Dieu et celle qui nous destinait à travers nos sens. Le désir humain qui ne connaît pas de frein nous taraude toutes et tous. On désire toujours plus. On combat cela par la tempérance. Vivre dans les limites du strict nécessaire. Saint Vincent de Paul disait, vous avez 4 manteaux, mais comme vous n'en portez qu'un seul à la fois, vous en volez 3 aux pauvres. Et plus on aura de biens matériels, plus le danger, c'est que le désir de Dieu va s'atténuer. Et qu'est-ce qui va faire place? Un vide, le vide du toujours plus, du jamais assouvi. Et alors, on en arrivera même à l'adoration par l'homme de ses propres passions. Et on en vient à une autodestruction. Ce ne sera pas simplement dans nos relations avec les autres, mais une consommation qui peut même aller détruire la planète elle-même. L'homme ne vit pas seulement de pain, dira le Seigneur. Donc, s'élever vers le Seigneur et tendre vers lui. Devenir vivant de ce que Jésus appelle la joie parfaite. Le plaisir n'est pas en soi mauvais. Il y a une jouissance infinie que Dieu nous propose dans la participation à la vie avec Jésus. C'est la joie parfaite. La joie parfaite, c'est l'aboutissement de la croissance spirituelle. Mais ce ne sera jamais l'aboutissement de tous ces désirs matériels, de toutes ces fringales. Voilà ce dont il faut se méfier. La pauvreté est une réponse possible, ou on appelle cela la sobriété ou la tempérance. Vous savez, frères et sœurs, cette pauvreté, ceux qui ne l'ont pas trouvée par la maîtrise du désir de possession, la puissance désirante, ceux qui restent les jouets de leur pulsion, de leur tendance désirante, il leur arrive parfois un choc énorme. Il suffit qu'un beau jour, il soit atteint ou atteinte d'une maladie. Qu'il découvre que la guérison n'est pas pour demain. Qu'ils apprennent qu'ils ne vont pas réussir à guérir tout à fait de cette maladie ou de cette infirmité. Ils vont donc crier vers Dieu leur détresse. Ils vont découvrir que les biens matériels qu'ils avaient, c'est de la paille. Que ce en quoi ils avaient mis leur force et leur énergie, ça ne sert à rien. Il ne leur restera que Dieu seul. Et ils vont donc en faire l'expérience, et c'est ça qui est dommage, un peu tard. Alors qu'on pourrait en faire l'expérience très très vite, si on désire, par la tempérance, canaliser cette énergie désordonnée, cette puissance désirante qui éparpille nos pensées, qui disperse notre cœur, qui corrompt notre intégrité spirituelle et qui empêche notre liberté. Ça va jusqu'à l'addiction. Il ne faut pas rejeter le désir matériel, mais la tempérance nous apprend à ne pas vouloir plus que ce dont nous avons réellement besoin. Et de quoi a-t-on besoin? Ça va aller très vite, du bon Dieu, de sa grâce. Et la première grâce qu'il nous donne, c'est la vie et la santé pour l'aimer et aimer nos frères. Donc, il ne faut pas éliminer la puissance désirante, ni y renoncer, mais refuser tout usage contre nature de cette puissance est donc perverse. La tempérance ne sert qu'à une chose, pas à être hygiéniquement correct dans sa tête par rapport à la gourmandise ou à autre chose, mais elle permet simplement de ne pas perdre Dieu et de le retrouver. La tempérance ne sert que pour mieux aimer le bon Dieu. Voici donc ce petit point que je voulais évoquer sur la tempérance. Alors maintenant, je voudrais aller un petit peu plus loin sur la gourmandise, si j'y arrive. Ah, la gourmandise, la luxure, l'avarice, la cupidité, les passions de la puissance désirante. Notre corps doit participer à notre salut. Et c'est précisément en ces points-là que notre corps doit être mobilisé. Garder son âme sans souillure pour l'amour de Dieu. Nos cinq sens, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, doivent contribuer à nous unir à Dieu. Sinon, comme dira Jésus, leur Dieu, c'est leur ventre. Cette maîtrise du corps est indispensable. Alors, la gourmandise. Elle peut être définie comme le désir de manger, 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 en vue du plaisir. Nos sociétés occidentales, américaines en particulier, c'est l'obésité. Mais il ne soigne pas l'obésité avec les vertus, mais avec les médecins. Ça ne guérit rien, ils se mettent des anneaux dans l'estomac, mais ils veulent toujours autant de plaisir. Comment ? Maigrir en mangeant comme avant. Plaisir de la bouche et du goût, désir de manger beaucoup. C'est ce que je vous disais, selon saint Paul, ils ont pour Dieu leur ventre. C'est donc l'esprit d'avidité, l'esprit de consommation lié au plaisir corporel. On dit que la gourmandise est la passion la plus grossière et la plus primitive, la plus proche de nos instincts. Ne dites pas à un prêtre qu'il est gourmand, il dira « Mais le bon Dieu a fait des bonnes choses, c'est pour qu'on en profite. » Quelle blague! C'est même plus un péché mortel. Et pourtant, c'est terrible, la gourmandise. Parce qu'elle nous rend prisonnières de notre corps, dépendance du désir. Et nous devenons habités par la pensée du besoin, jusqu'aux addictions. Cette gourmandise dont je vous parle, on détourne la nourriture de sa faim. On doit se nourrir par nécessité. On doit user et non pas jouir d'eux. Outils, fruits, jouir d'eux ou user d'eux, faire un bon usage. On ne doit jouir que de ce qui élève, qui rapproche. C'est donc de l'idolâtrie de la nourriture. On ne doit pas faire de notre estomac l'esclave de la passion gourmande. On doit faire de notre estomac le calice de notre âme. Ça peut nous rendre service quand nous pensons, quand nous communions. C'est pour ça qu'il y a le jeûne eucharistique. Un estomac de goinfre ou un calice pour le Seigneur que notre estomac. C'est bizarre de dire cela, vous voyez, mais on ne pense pas que en n'étant qu'un homme mangeant, on est un païen. Parce qu'on ne sera pas seulement boulimique au niveau de la nourriture, mais dans tous nos rapports, dans notre attachement aux êtres humains. Donc la gourmandise n'est pas une passion banale. Adam, Ève ont voulu jouir d'un fruit en dehors de Dieu. Et ce fruit symbolise, cet événement d'Adam, de nos premiers parents, symbolise et représente le monde sensible tout entier. Ils ont succombé à ce désir d'autonomie par leur estomac. Ils ont échappé au commandement du Seigneur, à la relation avec lui. Ils ont même coupé la relation avec Dieu. La passion de la gourmandise crée une rupture, une séparation de l'homme avec Dieu. Elle est contraire à l'esprit de dépendance avec Dieu. Satiété à partir de moi ne peut pas devenir dépendance à l'égard de celui qui est le vrai pain et la vraie nourriture. Donc la gourmandise va émousser la vivacité du cœur, alourdir l'esprit autant que le corps, va nous priver de discernement. Se nourrir, c'est faire un usage juste nécessaire pour que notre corps puisse être alimenté pour ce qu'il est. Notre rapport au monde va en être changé. Alors on pratique le jeûne, mais pas pratiquer le jeûne parce qu'il faut maigrir. Pas non plus un jeûne excessif, mais le jeûne se pratique de différentes façons. Il y a le jeûne du regard, le jeûne de la parole, le jeûne de l'ouïe, le jeûne de l'indispensable dans le quotidien. Le jeûne de nos dépendances ou de nos habitudes. Par exemple, je conseillerais aux paroissiens de jeûner de téléphone une heure avant la messe. Pas de portable une heure avant la messe. Je crois que ça serait assez intéressant. Je coupe mon téléphone une heure avant la messe. La gourmandise des infos, la gourmandise de la nouveauté, voilà. Et puis quand on maîtrise sa gourmandise, qu'on n'est plus dans le jouir, mais qu'on fait simplement usage, on passe d'une sensibilité qui est souvent en fleur de peau à une sensibilité capable de se perdre et de se donner, de se mettre au service. La prochaine fois, je vous parlerai peut-être de la luxure, je vous parlerai aussi de l'irascibilité qui se conjugue en trois dimensions, tristesse, assédie et colère, et puis des puissances de l'âme au niveau de l'intelligence. Je vous parlerai ensuite comment le démon, il travaille en tant qu'ange déchu. Et enfin, j'espère vous donner quelques indications pour pratiquer autour de vous ce que j'appelle une charité active et une vie chrétienne dans l'Esprit Saint.